Bonjour et bienvenue, si nombreux, ça déborde de tous les côtés, c'est très réjouissant de vous voir ainsi rassemblés sur cette belle place de l'Hôtel de Ville, toute rénovée, voilà, on l'inaugure avec ses correspondances, c'est un grand plaisir. Bienvenue, j'espère que vous êtes à peu près bien installés, à gauche, à droite, tout au fond là-bas, que vous nous entendez bien. Je suis très heureuse d'être sur cette scène aux côtés de nos deux invités, Ruben Barouk et Abdellah Taïa. Bienvenue à tous les deux, bienvenue à Manosque et merci de les accueillir chaleureusement. C'est une première fois pour vous. Abdellah, vous me disiez à l'instant que vous avez pris le temps de vous promener dans les ruelles, de respirer les lieux, d'observer les gens. Quelle émotion, quelle sensation d'être ici.
Je suis très heureux d'être ici. J'ai eu le temps d'aller au Monoprix et acheter des mandarines. Et juste après, je suis entré à l'église du Saint-Sauveur et j'ai fait des selfies. Et voilà, je suis là.
Donc, bienvenue à tous les deux.
Merci
donc,
à vous.
Je vais vous présenter, vous connaissez le principe. On va échanger pendant une petite heure sur cette scène et puis vous aurez l'occasion, bien sûr, de prendre la parole si vous le souhaitez avec un micro qui essaiera de circuler parmi ces allées bien serrées et bien chargées. Alors, à ma gauche, Ruben Barouk, bienvenue. Ruben, merci. Vous êtes né en 1997 à Paris, vous y avez grandi. Si mes informations sont bonnes, je crois que vous avez suivi des études de commerce dans un premier temps.
Absolument.
Puis de philo et de lettres.
Exactement, en parallèle.
Mais en parallèle. Tout, ah oui, c'est parce que c'était. Je me suis dit, ils se sont trompés, c'est pas possible de faire les trois en même temps.
C'était
donc j'ai mis puis, mais non. C'est et.
En parallèle, ouais.
Très bien. Voilà, donc vous avez, vous, 48 heures par jour dans vos journées. Chacun s'organise comme il veut. Avant de travailler pour une agence de com, c'est encore
exactement.
Le cas.
Exactement, c'est toujours le cas. Ouais.
Est-ce que ça s'appelle Onigiri?
Non, presque, Ogilvy.
Ah, Ogilvy, parce oui. Que à la radio, j'entendais pas et j'ai tendu l'oreille, j'entendais pas le.
Ogilvy, c'est une agence parisienne de publicité dans laquelle je travaille depuis 6 ans.
C'est ça. Mais vous écrivez depuis 7 ans. Vous aviez commencé à écrire avant de travailler. Vous écrivez depuis 7 ans et en 2022, avec votre maman, vous avez rendu visite à votre grand-mère, qui est juive séfarade, qui vit à Marrakech. Et c'est ce voyage intime et familial qui vous a inspiré le premier roman pour lequel nous vous accueillons aujourd'hui et qui est paru en cette rentrée aux éditions Albin Michel, « Tout le bruit du Gélise ». Le voici avec cette magnifique illustration. Un roman qui reçoit un très bel accueil critique, qui est sélectionné pour le prix Goncourt. Excusez du peu, premier roman, sélection, quand même. Et donc pour le prix Goncourt des lycéens, parce que ça va ensemble, sauf si on l'a déjà eu. C'est le cas de Gaëlle Faye et de Carole Martinez, qui ne pourront pas l'avoir, mais pour vous c'est possible. Et vous avez déjà été récompensé par le prix du premier roman du Festival des écrivains chez Gonzague Saint-Brice. Ça fait quand même déjà beaucoup de bruit autour de ce bruit du Gélise.
Ça fait beaucoup déjà.
Comment vous viviez justement cet accueil-là? Parce que c'est une expérience qui s'est accélérée là d'un coup. On va parler de comment le livre est arrivé chez Albin, mais en amont, comment est-ce que cette effervescence-là de la rentrée vient vous attraper?
Bien, je suis très heureux évidemment d'être ici et je suis très heureux de cet accueil-là pour ce roman qui est une histoire intime, mais pas que, une histoire aussi très universelle et malheureusement très actuelle aussi. Et ces prix et ces sélections donnent beaucoup de visibilité à ce roman, donc c'est déjà très bien.
C'est un joli vertige, un petit vertige agréable.
Un joli vertige.
À vos côtés, Abdellah Taïa, bienvenue Abdellah, on est très heureux de votre présence ici. Vous êtes né en 1973 à Salé, au Maroc, vous avez commencé vos études de littérature française à Rabat pour les poursuivre à Genève et les finir par une thèse sur Fragonard, sur le peintre Fragonard à la Sorbonne à Paris. Vos premiers textes ont été publiés en 1999 aux éditions Paris Méditerranée, c'était un recueil de nouvelles, des nouvelles du Maroc. Et puis, un peu plus tard, en 2001, c'est votre premier recueil qui paraît, Mon Maroc, chez Séguier cette fois. En 2004, vous avez enseigné dans une université new-yorkaise. Et puis, en 2007, vous avez fait la couverture du magazine Tel quel au Maroc, sous le titre Homosexuel envers et contre tous.
C'est correct.
Pardon ?
C'est correct.
C'est correct. Jusqu'ici, tout est correct. Vous êtes l'auteur d'une douzaine d'ouvrages à ce jour. Je ne peux pas tous les citer, mais je vais quand même mentionner Le Jour du Roi, qui vous avait valu le prix de Flore en 2010, Infidèle en 2012, Un pays pour mourir en 2015, ou encore Vivre à ta lumière en 2022. En 2012, vous avez réalisé votre premier film, L'Armée du Salut, qui était une adaptation de votre troisième roman. Vous l'avez présenté à la Mostra de Venise et au Festival de Toronto. Il a été là aussi primé. Aujourd'hui, nous vous accueillons pour Le Bastion des larmes, qui vient de paraître chez Julliard. Voilà les deux ouvrages en ma possession, avec donc pour mission de tisser des liens entre vos deux univers. Un premier point commun donc, pour vous en cette rentrée, c'est ces sélections pour le prix Goncourt. Abdella, de votre côté, qu'est-ce que ça provoque? Est-ce que c'est plutôt de l'excitation, de la pression? Est-ce que vous y pensez tous les matins en vous rasant?
Non, je ne me rase pas tous les jours. Je suis juste extrêmement heureux et chanceux. Voilà, c'est avec tous les livres qui sortent chaque année, de se retrouver sur cette liste, c'est un grand honneur. Et merci, merci, merci.
Alors, avant d'entrer dans ces deux romans qui sont des romans du retour au Maroc, c'est un des points de parallèle qu'on va tisser, je voulais vous entendre tous les deux sur la place des livres et de la lecture dans vos enfances respectives. Est-ce que les livres ont été présents? Est-ce qu'il y avait un accès facile à la lecture? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé un peu plus tard dans vos vies? Abdella, peut-être pour commencer.
Alors, moi, je suis né en 1973, donc c'est un temps où il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout ça, mais il y avait une seule chaîne de télévision au Maroc, la RTM, et je crois que qui commençait à 18h et que tout se terminait à 23h15, et j'étais devant la télé à 17h30, voilà, pour pouvoir voir ces images-là. Les livres, j'avais toujours cette impression que c'était pour les bourgeois marocains qui allaient dans les écoles françaises, ce qu'on appelle la mission française jusqu'à aujourd'hui. Il y avait quelque chose qui me disait que les livres n'étaient pas pour moi. Alors je me concentrais plus sur les vieux films égyptiens qui passaient à la télévision. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un livre très important qui m'a marqué alors que je ne l'avais pas lu. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille vivement. C'est un roman marocain qui s'intitule « Le pain nu » de Mohamed Choukri. Mohamed Choukri est un immense écrivain qui a raconté dans ce livre la réalité marocaine dans une nudité absolue, dans une poésie extrême. Ce livre a été interdit par le Maroc, par le roi, dans les années 70 et 80. Mais assez bizarrement, tous ceux qui l'avaient lu l'ont raconté à tout le monde. Ils ont raconté la radicalité et la beauté de ce livre. Et j'ai l'impression que ce livre est entré en moi. Il m'a même autorisé à un moment donné dire bah, moi aussi je vais être le fils de Mohamed Choukri et je vais choquer ce Maroc et leur dire bah, je suis écrivain et homosexuel.
Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il n'y avait pas un texte de Mohamed Choukri dans le premier recueil de...
Oui, il y avait un texte. C'était un signe incroyable.
Fort.
Oui, la première fois que j'ai été publié de ma vie, en 1999, dans un recueil qui s'intitule « Des nouvelles du Maroc », j'avais trois nouvelles dedans et il y avait aussi une nouvelle de Mohamed Choukri. Voilà, quatre ans plus tard, il est décédé. Voilà, vraiment le pain nu. Mohamed Choukri, il est traduit en France depuis des années. C'est un monde, c'est pas seulement une histoire, c'est tout le Maroc raconté par ceux qui ne sont pas censés écrire et même arriver à la littérature. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, j'ai grandi avec l'idée que moi je suis pas censé écrire, je suis même pas censé lire les livres et encore moins en français au Maroc. Donc quand j'essaie d'écrire aujourd'hui, j'essaie d'écrire en me souvenant de ça et non pas en faisant oublier aux autres que je viens de là. Ça me paraît important.
Oui, de le rappeler et d'être toujours dans cette continuité-là, de pas être dans la rupture.
Et puis même que cette pauvreté des mots, cette pauvreté culturelle, entre guillemets, dans laquelle on a été placé, eh ben, il faut en parler aussi.
Il faut en parler, ne pas la nier et ne pas faire comme si elle n'avait pas existé. On va entrer dans vos textes à tous les deux. Ruben, oui, pardon.
Et pour lui, la place.
Ah oui,
des
pardon,
livres.
Pardon, bien sûr. Mais heureusement que vous êtes là, Abdella Taïa. On va co-animer maintenant les rencontres, si vous voulez bien, jusqu'à dimanche.
Absolument. La place des livres, moi, elle a toujours joué un rôle très important dans mon enfance. C'est ma mère qui a fait mon éducation littéraire. en m'emmenant à la bibliothèque notamment énormément. Donc j'ai eu cette chance-là parce qu'elle me prêtait toutes ses lectures ou toutes les lectures qu'elle trouvait pertinentes et des rencontres un petit peu comme tout le monde, je pense, assez marquantes avec des professeurs de français notamment qui m'ont initié. Et quand je pense à l'initiation, c'est des lectures qui se retrouvent énormément en filigrane dans ce que j'écris finalement. Je pense à Modiano notamment. Que j'ai beaucoup lu, à Kafka, à Duras, tous ces auteurs-là qui m'inspirent énormément, que j'ai gardé, que je continue de lire très régulièrement.
Qui vous accompagne. Dans votre roman, le narrateur entreprend un voyage avec sa mère pour rendre visite à la grand-mère, Paulette, qui vit dans le quartier du Gailiz, à Marrakech. Le bruit qui donne son titre au roman est celui qu'entend Paulette. Ça la préoccupe, ça l'inquiète, elle appelle sa famille et la mère et le fils décident de lui rendre visite. C'est ce bruit qui déclenche le voyage, car le narrateur et la mère veulent comprendre de quoi il s'agit, comprendre son obsession. Ce voyage, vous l'avez fait, vous écriviez depuis des années. À quel moment est-ce que vous avez saisi, compris, deviné qu'il allait devenir une matière pour un roman ?
Très rapidement, pendant le voyage même. Pendant le voyage, donc effectivement, si on revient un tout petit peu à la genèse, donc c'est effectivement une histoire vraie.
Vraie, on va dire ça.
Absolument. Donc j'ai fait ce voyage avec ma mère en mars 2022, absolument, où nous sommes allés rendre visite à ma grand-mère qui habite au Gailiz, donc qui est le quartier de la ville nouvelle de Marrakech, en comparaison ou en opposition du coup à la Médina, qui est la vieille ville de Marrakech, qui correspond plutôt, le Gailiz, au quartier européen finalement, où ma grand-mère vit, a toujours vécu, et des générations avant elle ont vécu aussi, et elle se plaignait d'entendre un bruit. Un bruit qu'elle ne parvenait pas du tout à définir, à identifier, à débusquer même, et qui lui menait la vie noire et qui gâchait ses nuits et qui gâchait ses jours, et qui n'avait manifestement rien de rationnel. Quand les cousins de ma mère, les frères et sœurs de ma mère, éparpillés un petit peu partout en Israël, aux États-Unis, en France, au Canada, ont commencé à s'intéresser à ce bruit-là, il est devenu plus bruyant encore finalement, et ma grand-mère s'en plaignait de plus en plus. Donc avec ma mère, on a décidé de partir au Gailiz là-dessus, de rendre visite à ma grand-mère et d'aller essayer d'identifier ce bruit-là. Et je me rappelle que le moment très très précis où j'ai décidé d'écrire ce roman, c'est un moment qui est décrit dans le roman, où nous sommes dans la cuisine de l'appartement de ma grand-mère avec ma maman et ma grand-mère, j'ose poser presque la question qu'il ne faut pas poser, parce que c'est un roman sur l'histoire, et notamment sur l'histoire de la coexistence des populations juives et musulmanes au Maroc et à Marrakech notamment, qui est une histoire révolue, oubliée presque, et que ce roman essaye de ressusciter. Finalement, je demande comment c'était avant. Et à ce moment-là précis, la réponse de ma mère et la non-réponse de ma grand-mère, qui hausse les épaules et ne veut pas me répondre sur l'instant, me fait comprendre que ce bruit-là, il est trop mystique pour n'en rien faire, et il mérite sa place dans un roman. Voilà.
On va poursuivre avec vous, parce que à ce moment-là, vous comprenez qu'il y a un roman, mais en tout cas, c'est un texte à ce moment-là. Pour qu'il y ait roman, il faut qu'il soit publié. Comment est-ce qu'il devient le roman que nous avons entre les mains aujourd'hui chez Albin Michel ?
Donc je l'envoie par la poste à Albin Michel, sans trop savoir à qui je l'envoie finalement. Et il est reçu par une éditrice merveilleuse qui m'accompagne aujourd'hui encore, qui s'appelle Lina Pinto, qui tombe amoureuse du texte, qui m'appelle et on s'appelle et on est heureux ensemble et on pleure un moment ensemble, et elle me dit qu'elle va le soumettre au comité de lecture, et puis finalement l'aventure commence comme ça. Donc un petit peu de réécriture, un petit peu de retravail, on est à peine en février 2024, donc c'est tout récent.
Et ça s'est fait très vite, vous l'avez écrit il y a un an. à peu près.
Je l'ai écrit il y a un an et demi, ouais, absolument.
Donc c'est allé très vite. Vous dites un tout petit peu de réécriture, un tout petit peu de travail. Quel a été justement ce travail, en quoi ça a consisté? Est-ce qu'il y a eu des choses impérativement à supprimer, à reprendre?
C'est la chance que j'ai eue, c'est qu'il n'y a pas eu grand-chose finalement. Il y a eu des questions, notamment sur ce que je voulais dire de mon histoire intime et personnelle, parce que je n'étais pas tout à fait sensible au fait que parfois il fallait protéger les siens, etc. etc. Et puis finalement, on a décidé de changer une chose, et je me rappelle, ça m'a beaucoup marqué, on a changé l'adresse de ma grand-mère. Donc on a remplacé son adresse pour pouvoir préserver un petit peu son intimité. Et finalement, quand ma grand-mère a lu les premières pages, elle s'est énervée parce qu'elle aurait préféré avoir de la visite. Et donc voilà, j'ai cru bien faire. Et puis finalement, en fait, tout le contraire.
La seule correction, il fallait pas que ça tombe.
La seule correction,
ça tombe sur
elle. Il fallait pas faire.
Effectivement, vous dédiez ce livre à Paulette. C'est son nom dans la vraie vie et c'est son nom aussi dans le roman. Donc vous avez assumé dès le départ le fait de voilà, d'être dans la poursuite de la vraie vie dans les pages du roman, sans faire plus de modifications que celle-ci.
Sans faire plus de modifications que celle-ci. En tout cas, il n'y a pas eu de modifications sur le fond. Parfois, certaines formes ont été un petit peu allégées, mais sur le fond, c'est resté une histoire vraie, une parole vraie de A à Z.
Derrière la grille ouvrante de son appartement, ma grand-mère attendait. Elle regardait, vigilante, entre les arabesques de fer forgé, comme un chat aux aguets, car elle avait entendu le bruit de nos valises tirées, marche après marche, jusqu'au premier étage. Ce matin-là de mars, elle avait habillé sa fatigue d'une gandoura rouge aux broderies dorées qui tombait sur ses jambes jusqu'à ses deux pieds nus. Les années l'avaient rendue maigre, ma grand-mère. Sa gandoura flottait aux courbes cachées de son corps amaigri. Et toujours elle portait cet emphatique chignon de cheveux blonds, indéfectible compagnon du jour, qui couronnait sa tête. J'avais laissé tomber ma valise pour la serrer contre moi. Voilà, vous avez rencontré Paulette. Elle est avec nous. Un mot avant de revenir à vous, Abdelataya, puisque c'est le bruit des valises tirées qui annonce votre arrivée.
Absolument, et le bruit prend de multiples formes dans le roman, mais c'est ce bruit-là, et elle nous fait rentrer très vite à l'intérieur de l'appartement, déjà pour nous faire entendre le bruit, pas celui-là, mais le vrai bruit. Donc on va dans son appartement où tout est encore très figé, où je n'étais pas allé depuis plus de 10 ans, et où j'ai énormément de souvenirs d'enfance finalement, et nous allons dans la chambre de mon grand-père défunt, où elle dort maintenant, ma grand-mère, et on ferme les volets, on ferme les rideaux, on ferme les portes, on éteint les lumières, on se recroqueville, on se serre comme ça sur le lit, parce qu'il fait très froid aussi, c'est un point important du roman, il fait très froid à Marrakech à ce moment-là.
C'est en février.
C'est en mars. C'est en mars. Mais c'est assez surprenant parce qu'on... En tout cas, moi, j'associe assez vite et assez simplement Marrakech au soleil et à la grande chaleur. Et puis finalement, il fait froid. Donc il y a quelque chose presque qui nous dit qu'on n'est pas au bon endroit ou que quelque chose ne va pas. Donc on est comme ça, serrés les uns contre les autres tout au long du roman, à la recherche du bruit, comme si le froid nous commandait et nous disait de rester près des uns des autres pour pouvoir comprendre ce qu'il est. Et donc, voilà, c'est cette première scène où on reste dans la chambre, on attend, et le bruit ne vient jamais. Et le bruit ne vient pas du tout. Et à partir de ce moment-là, le voyage commence. On décide de laisser le bruit venir à nous quand il veut, où il veut. Et on part faire un grand pèlerinage dans l'ancien quartier juif du Maroc, de Marrakech, pardon, au Mella. Bien ailleurs aussi, sur les routes désertiques, vers la vallée de l'Ourika aussi, pour prier les saints. Parce qu'il y a au Maroc des saints vénérés et priés, des populations juives et des populations musulmanes aussi, où nous allons comme ça, où nous allions aussi quand j'étais petit, et nous allons demander aux saints de faire cesser le bruit.
Et c'est là que le roman, c'est sur cet élan-là que le roman se construit.
Absolument.
Vous évoquez ces trois personnages qui sont serrés comme ça sur le lit, qui se tiennent chaud. C'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans votre roman, Abdelataya. Si celui de Ruben Baruch est un roman de la grand-mère, un portrait de la grand-mère, un hommage, un éloge à la grand-mère, le vôtre serait peut-être le livre des sœurs. Elles sont six dans le roman, elles sont plus nombreuses dans la vraie vie, elles sont huit, mais elles ne sont que six dans le roman. C'est l'histoire de Youssef, qui est installé en France depuis plusieurs années, qui cherche à être publié, qui écrit. Il revient au Maroc, 10 ans après le décès de leur mère, pour vendre la maison dont il a hérité. Ce livre est une conversation entre Youssef et ses nombreuses sœurs. Elles parlent parfois d'une seule voix, parfois on les distingue. C'est aussi une conversation avec Najib, l'ami d'enfance, avec lequel il a partagé beaucoup de choses. Et c'est l'occasion de revenir sur cette enfance de petit garçon efféminé, gay, dans ce quartier de Hay Salam, à Salé. Et ce livre-là, donc, dit aussi beaucoup la proximité des corps et la présence des sœurs. Je voudrais vous entendre sur ce livre des sœurs.
Mais moi, je n'ai écrit que sur ça. Hein. Tous mes livres ne parlent que d'une petite pièce où nous étions les uns à côté des autres, les uns sur les autres. Je suis né dans une famille à 9 enfants. Dans une maison, il y avait 3 pièces où la répartition des corps était ainsi. Il y avait le grand frère, le fils aîné, que ma mère avait décidé d'introniser comme le roi silencieux de la famille. Elle lui avait donné une chambre, mais en même temps, elle l'avait programmé parce que c'était lui qui allait nous sauver de la pauvreté. Bon, il a réussi dans sa mission dans un premier temps. La deuxième pièce, c'était ce qu'on appelle le salon, des invités, où ma mère avait exilé le mari, notre père. Et la dernière pièce où le sens et le goût et le sel de la vie se trouvent pour moi, c'est cette pièce où il y avait les 6 sœurs, ma mère, mon petit frère et moi. Donc ça fait 9 corps dans une petite pièce. La vie éternelle, pour moi, passera toujours là. Donc tout ce que j'écrirai, tous les livres que j'ai écrits jusqu'à présent ne parlent au fond que de cette promiscuité et de ce contact naturel, éprouvant, infernal, sublime, paradisiaque, parce que je ne le retrouverai jamais. Depuis que je suis en France, je suis un corps seul qui navigue dans une galaxie où il n'y a plus ni les sœurs, ni les autres, ni les bruits des autres, ni les cris des autres, ni les récits extrêmement transgressifs et libres de ces sœurs et cette mère qui, quand les sœurs criaient trop, elle leur disait « Taisez-vous, c'est à mon tour de crier ». Donc voilà, donc vous pensez bien que là j'ai un matériau, même si j'étais aveugle ou sourd, je l'aurais pris. Et je sais que c'est ça ce qu'il faut écrire. Et c'est ce que je n'écris que ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes prévenus. Il y a toujours la même histoire, toujours ces sœurs, toujours pas que ces sœurs, toujours ce monde. Et au fond, mes avatars, mes doubles, ceux qui me ressemblent, à qui je change à chaque fois de prénom. Pour ce roman, c'est Youssef. Ils sont à chaque fois presque le prétexte pour que tout ce monde surgissent de nouveau. Enfin, c'était la pauvreté totale, la famine totale pendant des années et des années, mais pour moi, l'enfant numéro 8, j'ai tellement appris d'eux et d'elles, de ses sœurs, j'avais l'impression qu'elles avaient, pas l'impression, c'était ça, elles avaient construit, je pense, c'est comme si elles avaient écrit un livre de Simon de Beauvoir dans la vraie vie, que moi je viens et au lieu, voilà, je prends tout pour survivre comme gay, mais en même temps pour me lancer dans une carrière professionnelle de petite danseuse pour elle, voilà, pour le rendre heureux. C'est-à-dire qu'elles m'ont donné ce sentiment au départ que l'homosexualité, que le garçon efféminé qui va être abusé par tout le monde dans le quartier, au départ, cette petite chose folle, c'est une source de bonheur. Donc quand la tristesse était éternelle dans cette pièce, elle disait ben, « viens, viens, fais la petite danse ». Et j'ai les plus vieux souvenirs de moi, c'est moi en train de faire la petite folle avec ses sœurs et tout le monde est heureux et tout le monde est homosexuel avec moi d'une certaine façon parce que voilà, ils acceptent ça. Donc vous voyez, donc il fallait bien qu'à un moment donné, je leur rende quelque chose et je leur consacre un livre à elles, rien qu'à elles, pour qu'elles crient encore et encore.
Vous dites, Brigitte Bardot, à côté, c'était rien. Ben non. À côté de mes sœurs.
Ben non, Brigitte Bardot s'est consacrée par la France. Mes sœurs étaient des bannies de la société. On était méprisés par les riches du Maroc, par le pouvoir du Maroc. Et pourtant, dans cette pièce, elles avaient... Pour moi, ça m'impressionne plus que Brigitte Bardot.
Elles n'ont peur de rien, mes sœurs. Plus tard, je ferai comme elles. Je détruirai par mes mots tout le monde, tous ceux qui se donnent le beau rôle. Elles sont comme dans un film égyptien, mes sœurs. Rien ne peut les arrêter. Ce sont des héroïnes, des danseuses du ventre, des étudiantes, des putes, des voleuses, des sorcières, des chanteuses, des criminelles, des ensorceleuses, des baiseuses, tous sauf des femmes bien comme il faut. Elles sont bien plus grandes que les actrices égyptiennes, mes sœurs. Bien plus scandaleuses, bien plus douées. Elles savent tout sur tout le monde. Elles ne sont pas dupes devant personne et devant rien. J'ai de la chance. Je suis un garçon, mais plus tard, je ne serai pas un homme comme ces hommes nuls de notre grande famille et ceux du quartier de Haït Salam, que mes sœurs passent leur temps à piétiner, à démolir. Elles rient beaucoup, mes sœurs. Même quand c'est la tragédie entre nous, à cause de notre pauvreté éternelle, la famine perpétuelle, ça finit toujours par des éclats de rire. De longs moments où, n'ayant plus rien à espérer, on rit. On rit de nous, des autres, et surtout de ceux qui croient nous commander. Le petit enfant pédé que je suis n'est pas compris, n'est pas protégé, c'est vrai. Mais quelle chance quand même, ces sœurs qui ne se soucient pas des lois, qui ne veulent pas être des filles bien comme il faut, qui critiquent tout ce qui se passe devant les yeux. Elles ne se taisent pas devant moi. Elles ne me disent pas que je suis un garçon qui ne devrait pas être avec les femmes. Elles ne sont pas des femmes comme les autres. Elles sont un gang. 6 sœurs en feu, en permanence dans le feu. Indomptable.
Bah, vous voyez pourquoi je suis devenu écrivain. C'est-à-dire que non seulement ces sœurs m'ont donné des expériences de vie incroyablement incendiaires, mais elles m'ont donné aussi une écriture, un style d'écriture. Je veux dire, je n'écris pas pour dire que j'ai eu des sœurs ou bien une famille pauvre, etc. Mais parce qu'elles ont réussi à faire entrer en moi leur voix. Et chacune de ces voix est devenue une façon d'écrire pour moi. Voilà, c'est ce qui a fait de moi un écrivain.
C'était votre grammaire, vos partitions, c'est votre vocabulaire, votre conjugaison, votre grammaire initiale.
Oui, d'autant plus que tout cela se passait dans la langue arabe, hein, parce que moi j'ai grandi dans une famille arabophone, et que tout ça je le ramène dans l'écriture en français. D'ailleurs, pour moi, l'écriture ne peut exister que dans cette chose invraisemblable. Comment le souffle et les cris en arabe finissent par entrer dans cette langue qui n'était pas à nous, le français, puisque c'était la langue des riches marocains et du pouvoir marocain, et que moi, enfin, pauvre de rien du tout, ben, je viens et je vous dis, ben, oui, je vais écrire dans votre langue avec le souffle et les cris de mes sœurs, et même la sorcellerie de mes sœurs.
Vous parlez de souffle, il y a une question d'élan très fort, et vous avez cette phrase dans le roman qui dit « Les femmes ne devraient jamais se marier ».
Ah, non, non, voilà, divorcez si vous êtes mariée.
Pourquoi cette phrase-là ?
Mais pour une chose invraisemblable, c'est que vous pouvez comprendre que je viens au monde, il y a 6 sœurs pour moi.
Moi tout seul.
Pas que pour tout seul. Non, c'est pas que pour moi tout seul. C'est-à-dire qu'elles étaient là, elles ne se souciaient pas de moi. Et moi, je prenais tout d'elles. Et tout d'un coup, des hommes étrangers, qu'on appelle les hétérosexuels, se présentaient dans la famille et puis prenaient chacun une des sœurs. Donc j'ai assisté à cette disparition programmée par la société ou par le monde qu'à un moment donné, une femme est condamnée à se marier et devenir l'esclave de son mari et des familles de leur mari. Donc je ne peux que... Enfin, j'ai le cœur...
Normalement constitué et brisé par ce programme de mariage.
Éternellement brisé. C'est pour ça que je les maltraite un petit peu dans le livre. Je ne raconte pas que des choses gentilles sur elles. Hein.
Non.
Méfiez-vous.
Et ça aurait pu être pire. Vous avez utilisé ce mot de « disparaître ». Ça me permet d'évoquer la cuisine de votre grand-mère que vous avez abordée tout à l'heure comme étant le lieu où ça a démarré finalement, parce que la question s'y pose. Il y a de la disparition et il y a de la magie dans la cuisine. Par ailleurs, la magie peut être la fable des esprits endormis, mais pas ici dans cette cuisine. À l'évidence, la pièce est soumise à un enchantement. À toute heure du jour et de la nuit, dans ce lieu inondé de lumière ou baigné d'obscurité, sans que personne s'y engage, les plus beaux mets se préparent. Par un charme souverain, les casseroles bosselées se réchauffent à feu doux, bercées par les tours éternelles d'une cuillère en bois. Les stratus de vapeur s'amoncellent sans jamais s'éclipser et voyagent loin, très loin du carrelage blanc, transportant avec eux les parfums des jardins mijotés, des poissons carminés au pistil de safran, des fèves tachetées par l'ocre du cumin. Ici, le four tournant fait briller les visages et les cocottes sifflent aux oreilles d'une femme cuisinière que les yeux ne peuvent voir. sans repos, ses mains virtuoses et spectrales épluchent les légumes, hachent la viande d'une main entraînée, assaisonnent tous les plats. Alors quand, tenaillés par la faim, vous entrez, les festins des merveilles s'exaltent de votre venue. Et celle qui les a composés n'est déjà plus là. C'est à croire qu'une autre version de ma grand-mère s'y attelle quand elle est avec nous. C'est à croire que la magie existe et qu'il faut l'admettre. Cette disparition-là, cette magie, cette cuisine centrale, elle aura un rôle aussi dans votre roman, la cuisine. Vraiment, vous l'abordez et votre texte se déguste à ce moment-là. Est-ce que vous avez cherché ça ou est-ce que c'est naturellement que ça s'est imposé en évoquant ce lieu ?
Ça s'impose assez naturellement parce que ma grand-mère, je l'associe aussi à la cuisine. Il y a un passage du roman notamment qui revient là-dessus où ma grand-mère garde près d'elle un vieux, très très vieux grimoire qui s'appelle le livre de la cuisine juive marocaine et qu'elle lit. C'est à peu près le seul livre qu'elle lit finalement et qu'elle relit tout le temps et qu'elle connaît par cœur. Et elle cuisine tout le temps, ça nous accompagne et elle cuisine pour beaucoup trop de monde finalement. Et quand je dis beaucoup trop de monde, il y a ce passage dans le roman et ce passage du voyage où notamment nous nous retrouvons le vendredi soir, qui est le soir tant attendu pour ma grand-mère du Shabbat parce que c'est la première fois qu'elle ne le passera plus seule. Et c'est ce que nous croyons sur l'instant. Et en fait, elle ne l'a jamais passé seule, Shabbat, parce qu'on s'assoit. Et il y a ce moment vertigineux, très triste, où elle décide de poser 8 assiettes, alors que nous sommes que 3. Et elle sert les 8 assiettes. Et avec nous, en fait, ce soir-là, les morts dînent. Et nous sommes toujours dans ce roman entre le monde des vivants et le monde des morts et des disparus et de tous ceux qui sont partis et qui ont quitté le Maroc et qui l'ont laissé voilà, dans cette soie de solitude-là. Et il y a évidemment de l'incompréhension parce qu'on se retrouve comme ça et on la regarde servir ses 8 assiettes pour tout débarrasser. Mais elle s'est attachée à ça. Elle s'est attachée à ses traditions, elle s'est attachée à ce que les tables soient remplies, à ce que les invités soient toujours là. Et elle vit quelque part, 60 ans en arrière, et on essaye de le comprendre aussi bien qu'on le peut. Et à ce moment-là, c'est assez tragique et je comprends que le bruit, on ne le trouvera jamais, en tout cas pas à l'intérieur, ni même dans le monde des vivants.
C'est toute l'enquête du livre et il va falloir pour nous en parler aujourd'hui sans trop en dire, parce qu'il faut que vous, lecteurs, qui n'avez pas encore eu l'immense plaisir de lire Tout le bruit du Galilée, soyez dans ce mystère-là jusqu'au bout. Quel est ce bruit ? Est-ce qu'on va finir par le saisir, l'attraper et d'où il vient ? Et qu'est-ce qu'il nous raconte ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc on va un peu naviguer comme ça, on va faire un peu nos mystérieux sur scène pour que vous ne sachiez pas tout. Mais forcément, il y a des petites bribes qui vont nous échapper. Ces 6 assiettes, ces 8 assiettes, en trop, elles auraient pu du coup accueillir les sœurs d'Abdelataya. Là, ça aurait fait une joyeuse tablée. Mais j'entends dans votre émotion, et c'est évidemment ce qui porte votre roman, cette volonté par l'écriture et à travers cette rencontre avec la grand-mère d'aller chercher, ressusciter, c'était vos mots aussi, un monde perdu, un paradis perdu, puisque l'une des choses que l'on peut quand même expliquer, c'est l'histoire de ce quartier du Mela. Et évidemment, aujourd'hui, dans ce que nous vivons au niveau international, ça a une résonance encore toute particulière. C'est le quartier dans lequel de nombreux juifs ont vécu, des milliers de juifs ont vécu. Ils ont été jusqu'à 40 000, je crois. Ils ne sont plus que 200, si mes chiffres sont bons aujourd'hui. 3 000 au niveau du Maroc, mais 200 dans ce quartier-là. En tout cas, cette population s'est complètement dispersée. Elle s'est évanouie. Et c'est ça aussi que votre grand-mère porte en elle. C'est cette nostalgie de cette période où les musulmans et les juifs vivaient en harmonie ensemble.
Absolument. Et ils sont malheureusement bien moins que ça au Mela, encore. Beaucoup moins que ça. Une poignée, quoi. Comptée sur les doigts de la main. Et ma grand-mère est restée à Marrakech. Et absolument, le roman parle de ça. Et sa mission, presque, parle de ça. Tout au long du roman, quand nous allons faire ce grand pèlerinage, nous croisons beaucoup de personnes, de personnages. Le gardien du cimetière, notamment, qui est un homme musulman. Bouriel, qui est le chauffeur de taxi, qui a un rôle très important, musulman aussi. Une gardienne d'un saint, musulmane aussi. Et le Mela, c'est totalement vidé, en fait. Le Mela est déserté, le Mela n'a plus de juifs du tout. Il y avait un moment dans ce voyage où nous marchons comme ça au Mela, et il y a une scène très forte où des enfants nous interpellent. Et ces enfants nous interpellent et nous indiquent la synagogue sans même que nous ayons besoin de leur demander quoi que ce soit, finalement. Et à un moment, parce qu'ils nous prennent le bras, qu'ils veulent vraiment nous accompagner à la synagogue et que ce n'est pas du tout ce qu'on cherche, la synagogue, à ce moment-là, ma mère décide de parler arabe. Et je sais que quand ma mère parle arabe au Maroc, c'est un dernier recours presque. Elle le fait quand elle n'a presque plus de solution. Et il y a, dans le regard de ses enfants à ce moment précis, un vertige immense. Ils ont 6 ans, 7 ans, et ils sont totalement perdus parce que les Juifs viennent d'Israël dans leur esprit et qu'eux ne savent pas que nous avons existé, pas moi en tout cas, mais que ce peuple-là a existé à leur côté, coexistant tous ensemble. Et il y a cette désillusion qui tombe comme ça, comme un grand marteau finalement, et la mienne aussi, parce que sur l'instant, je crois que le Maroc est peuplé de juifs, et eux pensent qu'ils n'ont jamais été là, et donc nos deux désillusions s'entrechoquent presque, et c'est un vrai moment de prise de conscience où je m'aperçois que le Maroc se dérobe presque sous mes pieds, et toute son histoire aussi, et que ces enfants-là ne savent pas, et que s'ils ne savent pas, alors c'est la fin. Et effectivement, nous allons comme ça, de déduction en déduction, de découverte en découverte au Mela, et nous apercevons à chaque fois qu'il n'y a plus de juifs, et que ma grand-mère est presque la seule à être restée, et que c'est tout, finalement.
Et qu'elle continue à mettre la table pour des grandes assemblées. Il faut préciser que ce quartier du Mela s'est notamment vidé au moment des conflits israélo-arabes, la guerre des Six Jours de 67, la guerre du Kippour de 73, qui ont été des étapes difficiles à passer et qui ont provoqué ces départs-là.
Tout à fait. Ça a été un moment de cassure pour presque les dernières populations juives qui finalement sont parties à ce moment-là. Et malgré ça, ma grand-mère est restée. Donc dans ce contexte-là, et elle est restée, et c'est marrant, vous évoquiez tout à l'heure ce bruit des valises, est-ce que c'est le bruit celui-là ? C'est aussi un bruit qui a fait que ma grand-mère est restée, puisque quand je lui demande pourquoi elle est restée, vraiment, quand je ne comprends pas en fait finalement pourquoi elle reste là seule, pourquoi elle prend soin des tombes, pourquoi elle reste alors que tout le monde est parti, pourquoi elle ne vient pas vivre avec nous en France, pourquoi elle est têtue presque, pourquoi elle est devenue ce personnage très durassien, qui lutte ce grand barrage contre le désert presque et l'oubli, je lui pose la question et elle me dit qu'elle a entendu une voix. Une voix, c'est aussi un bruit d'une certaine manière. Et ce bruit-là l'a accompagnée finalement. Et c'est à cet instant précis que, oui, tout ce qu'il restait de juifs au Maroc est parti.
Une voix, c'est aussi un bruit. Une voix, c'est aussi celle que Youssef entend dans son rêve, celle de Najib, qui vient lui rendre visite. Najib, c'est son ami d'enfance. C'est aussi un petit garçon qui était gay, qui a vécu sa vie d'homosexuel au Maroc. Lui est resté au pays. Youssef est parti en France pour revenir. Il s'adresse à lui à travers ses rêves parce qu'il est décédé. Et il a cette phrase, ça me permettait de faire le lien avec la cuisine que l'on trouve dans le livre de Rouben. Najib dit à Youssef, « Comme toi, Youssef, je restais dans la cuisine quand ma famille recevait du monde. » Cette phrase, elle est très forte, elle est très puissante. C'est une façon de cacher ses enfants, de les faire disparaître quand ça ne convient plus, quand ça ne nous arrange plus, quand la sphère familiale s'ouvre à des visiteurs.
Je crois que c'est plus complexe que ça. Les pauvres, quand ils reçoivent des gens importants, ils n'ont pas l'argent pour acheter des vêtements présentables pour leurs enfants. Donc, il y a ceux qui ont les vêtements pour être présentés aux riches, les autres, ils peuvent. C'est pas qu'ils ont honte de leurs enfants, mais ils ne peuvent pas, ils peuvent pas présenter à ces gens importants leurs enfants habillés comme ça. Dans le cas de Youssef, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'on le cache parce que il pourrait, le fait qu'il soit homosexuel et ça se voit sur lui, pourrait être un facteur qui va les diminuer encore plus dans la société. J'espère que vous comprenez la distinction. C'est ça, pas s'ajoute. Qu'ils ne l'aiment pas.
Ça s'ajoute à la pauvreté.
Ça s'ajoute à la pauvreté. Et qu'en plus, avoir un enfant aussi librement homosexuel, petit enfant efféminé, folle, ça pourrait leur poser des problèmes. Alors qu'ils en ont déjà tous les jours, rien que pour manger, tout ça. C'est une distinction, s'il vous plaît, que je vous demande vraiment de mettre dans votre tête, parce que c'est important de dire que les gens ne naissent pas homophobes ou racistes. Quelque chose dans la société, le pouvoir, à un moment donné, finit par entrer entre les gens, comme on dit en arabe marocain, dans les cœurs des gens, et les colonise. Et finalement, des gens qui nous aiment, qui nous ont vus, qui nous ont demandé de faire les petites danses heureuses de ventre pour eux et elles, finissent par parler exactement avec les ordres qu'on reçoit d'en haut et qui passent à la télévision. Donc pour moi, cette distinction, et c'est ce qui fait que lui, Youssef, en tout cas, dans ce livre, il est tout le temps dans une ambiguïté. Il comprend pourquoi les sœurs se sont mariées. Il comprend pourquoi les femmes n'ont pas d'autre issue. Qu'est-ce qu'elles vont faire ? Avec qui elles vont faire société ? Parce que même ne pas se marier, ça va les amoindrir encore plus. Donc il comprend tout cela. Il comprend que ces mêmes sœurs, influencées par les maris et les familles des maris, ont fini par se détourner de lui. Et que un autre tabou s'est rajouté à tous ces tabous qui existent.
À
toute une liste. Et ce qui est le plus tragique pour lui, c'est que ces mariages et ces exils, tout ça a fait oublier aux sœurs ce qu'elles ont vécu avec lui, enfant. Et lui, le gay, et c'est ça la mission de Youssef dans ce livre, il devient la mémoire des sœurs, de ce qu'elles ont été. Avant que les mariages et les maris ne les transforment en autre chose, ne les délavent, ne les essorent. Mais vraiment, c'est ça. Je suis désolé de parler comme ça, mais il y a quelque chose de cet ordre. On les met dans une machine, on leur dit... D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent au Maroc, ta place, c'est la cuisine. Et voilà, et je serai toujours sidéré à chaque fois que... 18, je suis désolé si je choque des gens ici, mais c'est la réalité qu'on impose aux femmes. Et... vers 19h, comment ma mère sentait que le père allait revenir, notre père, et que le grand frère aussi, qui travaille à l'époque, à ce moment-là, dans un grand ministère de Rabat, il y avait comme si c'était le roi qui allait arriver. Il fallait se mettre tout ça pour ces hétérosexuels qui, en plus, qui entrent. Enfin, mon frère et mon père, d'accord, mais des hétérosexuels qui allaient entrer, qui n'ont même pas quoi raconter ou quoi que ce soit. Et pourtant, elle, il faut qu'elle que ma mère s'oublie ce qu'elles sont et qu'elles soient là à la hauteur de ce qu'attendent les hommes, les hétérosexuels et tout ça, voilà. Et non seulement il y avait la cuisine qu'il fallait faire pour les enfants, mendier, tous ces gens, parler aux mauvaises personnes, les gens qui vous mettent la sorcellerie devant votre porte. Et en plus, quand les maris, le grand frère reviennent, ne pas leur raconter ce qui était mauvais, hein. Donc vous voyez, il y a c'est pas qu'ils ont honte de lui, mais la société telle qu'elle est construite par ceux qui nous dirigent disent à ces gens-là, ce fils il faudra le cacher. Le paradoxe et peut-être la beauté de ce personnage, c'est qu'à la fois il a subi tout cela, mais il ne peut pas, il ne veut pas oublier la beauté, d'accord, dans la pauvreté totale, mais la beauté de ce qui a existé entre eux. Et du coup, il devient la mémoire. Et sa mission dans ce livre, et l'écriture, et les voix qui reviennent grâce à lui, c'est qu'il veut les confronter. Il leur dit, vous avez oublié, ou peut-être vous faites semblant d'oublier, je suis votre mémoire. Et à travers cela, je dis, moi, l'écrivain, qu'est-ce qui fait que c'est le gay, finalement, l'homosexuel, le LGBTQ+, qui garde la mémoire de ce monde, et que les hétérosexuels finissent par s'engouffrer dans des trous noirs. Mais lui, il ne veut pas aller dans le trou noir. Il veut à la limite, il veut tous les amener jusqu'à ce mur, cette forteresse qui s'appelle le bastion des larmes, mais pas pour leur faire du mal, pour que la mémoire leur revienne à elles et à eux. Donc, ce qui fait que le livre est tout le temps dans une ambiguïté de ce que je viens d'expliquer. Voilà, c'est...
voilà. Un mot qui n'est pas ambigu et que vous choisissez plutôt que le zemel arabe qui veut dire pédé ou le mot homosexuel, c'est le mot gay. C'est un mot qui est vraiment important et c'est celui que vous choisissez dans votre texte. Et il rejoint, il va dans le prolongement de ce que vous dites parce que le mot gay, lui aussi, il veut dire plein de choses à la fois.
Bah, gay, en anglais, ça veut dire joyeux.
C'est, en français aussi, finalement.
Je pense
sans,
pas.
Sans le Y.
Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Ah oui, oui, j'avais oublié ça. Oui, mais quand on l'utilise comme ça, ce n'est pas pour faire référence
pas
aux gays
tout.
Et aux homosexuels.
Pas du tout. Mais le mot gay en français, G-A-I,
je sais.
C'est quelqu'un de joyeux.
Mais
je n'avais
jamais fait le lien, c'est drôle. non, mais pour moi, l'idée juste de gay, c'est lié à ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Que quelque part, je ne peux pas oublier que l'homosexualité, au tout départ, pour eux, et comment ils me l'ont fait remarquer que j'étais, c'était une source de bonheur pour eux. Après, la société leur a fait changer d'avis, mais moi, je ne peux pas oublier ce souvenir qu'être gay, être homosexuel, être lesbienne, être transgenre, il y a quelque chose de tout aussi naturel que les autres. Voilà, donc c'est important pour moi donc, de revenir à, et de rester dans cette gaieté. Restons-y.
Il n'y a pas que de la gaieté, mais on va l'aborder, évidemment. Mais pour être dans cet élan-là, je voulais lire ce court passage pour revenir au cri que vous avez tous les deux, le mot que vous avez tous les deux prononcé. Ce sont les sœurs qui s'adressent à Youssef. Tu devrais crier. Il n'y a que cela de vrai dans ce monde. Se mettre volontairement dans tous ces états. Laisser remonter en nous tout ce qui est mauvais pour l'expulser par les yeux, par la bouche, par la peau. Devenir méchant, injuste, incontrôlable, ingérable. Ne plus se sentir, l'autre en soi, le djinn, la puissance invisible qui prend le contrôle, l'autre en soi qui parle fort, très fort. Parce qu'il y a de la gaieté, mais il y a du cri aussi à l'intérieur.
Ben, je pense que, comme je viens de l'expliquer, le monde finit toujours par mettre le mal entre nous, M-A-L. Donc il faut bien se débarrasser de ce mal d'une manière ou d'une autre, ne pas le laisser circuler en nous. Parce que si ça circule, ça va être transmis à d'autres générations, on n'en finira pas. Donc il faut bien faire quelque chose, le brûler, se désenvoûter. J'ai vécu avec une mère qu'on disait totalement folle parce qu'elle passait sa vie à tout désenvoûter, brûler. Dès qu'il y avait les invités qui partaient de la maison, de toute façon, les invités, ils étaient toujours pour elle mauvais. Ils avaient une mission de lui jeter des sorts dans sa maison. Donc dès qu'ils sortaient, mais elle désenvoûtait tout, elle faisait brûler des trucs. Elle entrait dans un état et on trouvait qu'elle était folle. Mais aujourd'hui, je me dis, mais pas du tout. Il y a des gens qui vont chez les psys, ici en Europe, pour oublier ça. Et elle avait trouvé une solution très pratique. Elle faisait tous ceux qu'elle croyait qu'ils lui ont ramené chez elle le mal, il faut l'expulser, il faut le sortir, ce mal. Ne pas le laisser. Ce n'est pas métaphorique, quand même. Elle n'a pas l'argent d'aller chez le psy. Bah, qu'est-ce qu'elle a? Bah, elle peut acheter du jaoui, elle peut acheter des choses à brûler, elle peut dire des formules. C'est vrai que ça vous fait rire, mais nous-mêmes, on riait d'elle. Mais aujourd'hui, je me dis, pour une femme pauvre qui vient du bled, qui vient de la colonisation française, qui a pu immigrer de là-bas jusqu'à la capitale Rabat, c'est pas rien. Elle n'est pas restée si analphabète, si illettrée que ça. Elle comprend ce que ça veut dire le mal et comment le sortir. Brûler ce mal qu'on met entre nous. Et même à Paris, je continue de faire comme elle. Soyez.
Mais si, ça marche.
Ça marche, ça marche, ça marche.
Ça me permet de faire le lien avec deux mots que l'on entend chez Paulette. Donc, il y a ce bruit mystérieux que je vous laisserai découvrir. Et puis, il y a ces petits bruits à elle. Il y a un petit refrain qui revient dans le roman, qui est le mot yak, qui ponctue toutes ces phrases. Comme s'il n'y avait que le tac du tic-tac. Ce temps qui est à la fois en train de passer et qui est arrêté, dans lequel elle est figée. En tout cas, ça fait comme un refrain, comme un petit bruit de plus dans votre roman.
Un tout petit bruit, un tout petit mot qu'elle dit tout le temps à chaque fin de phrase, qui signifie un, ou n'est-ce pas ? Et elle le dit à chaque fin de phrase. Et quand elle le dit toujours avec un très très grand sourire, comme si toutes les fins étaient très très joyeuses. Et celle qui nous attend peut-être en particulier. Donc effectivement, elle dit tout le temps yak, tout le temps ce petit mot qui met le doute absolument partout. Et qui lui donne un côté très enfantin et très puéril finalement, parce que, et candide aussi, parce qu'il y a, il y a dans ce petit yak là du doute, du je ne sais pas, du qu'est-ce que tu en penses, tout le temps, quoi qu'elle dise. Et on a envie de la rassurer à chaque fois qu'on l'entend, on a envie de lui dire bah oui, oui. Et voilà.
Et il y a un autre terme qu'elle emploie, c'est celui qu'elle utilise pour appeler son petit-fils. C'est Chikpara, qui veut dire, donc c'est un terme affectueux, mais ça veut dire je prends ta peine.
Absolument, ça veut dire je prends ta peine, je prends ton mal, je prends ta douleur. J'ai même entendu je me sacrifie pour toi. Et elle m'appelle comme ça, et elle appelle mon frère et ma sœur aussi comme ça, mais ça m'a marqué parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Elle me le dire en vrai, et dès que je passe la porte, quand on arrive dans son appartement, elle m'étreint et elle m'appelle Mchikpara. C'est un mot qui est très très fort et qui résonne énormément parce qu'il est bien au-delà des limites du disciple finalement. Il dit je prends ta peine avant même que les peines ne soient nommées, avant même qu'elles ne soient exprimées. Donc y a quelque chose de l'ordre de l'invisible, de je peut-être que tu es en souffrance, peut-être que tu as de la peine, je ne le sais pas, mais si jamais ça devait être le cas, je la prends tout entière.
Et quelle qu'elle soit.
Et elle la prend comme ça, et c'est un mot, je dis, qui est comme une petite lanterne qui viendrait à bout de la nuit la plus noire, et elle dit tout le temps, je prends ton mal.
Sa fille et son petit-fils, finalement, à leur tour, viennent pour prendre sa peine.
Exactement. Sans en dire trop, mais oui, on vient pour prendre sa peine, ou du moins pour la comprendre, en tout cas, sa peine, et pour la partager à notre tour. Donc, ma grand-mère entend toujours le bruit aujourd'hui, donc on ne l'a pas totalement pris, cette peine-là, mais on vient effectivement pour essayer de comprendre et pour essayer de l'apaiser un petit peu pour des choses aussi banales que passer une nuit normale finalement sans entendre le bruit, ou des choses qui s'inscrivent dans du long terme, qui seraient dans l'espoir fou un jour de faire taire ce bruit-là, de comprendre ce qu'il est. Et on ira jusqu'au bout du bout, finalement. On va la laisser faire tout au long du voyage, tout un tas de choses. Tu parlais très justement de l'encens, de « il faut tout désenvoûter ». Bah, elle, à son tour, elle désenvoûte tout. Et elle utilise le prol, qui est cet encens-là. Et elle l'utilise pour traverser le monde et aller chercher le bruit dans le monde des morts et essayer de comprendre ce qu'il est. Et elle revient en nous disant que le bruit a un visage, que le bruit a un chapeau, que le bruit ressemble à ça, et il y a toutes ces frontières invisibles qui sont passées là, et je dis tous les moyens sont bons. Donc au début on est dans une enquête très sensorielle, avec une écriture sensorielle aussi, on écoute, on sent, on cherche, on tend l'oreille, en fait on est vraiment à l'écoute, et à un moment on bascule avec elle totalement dans quelque chose de beaucoup plus mystique, dans quelque chose de beaucoup plus invisible, où les traditions et des choses assez occultes finalement prennent le pas. Et donc il y a, oui, cet encens, il y a les paroles aux morts et les paroles aux saints et des rituels qui sont décrits, et elle a recours à tout pour essayer de chasser ce bruit-là, et ma mère la laisse tout faire. Ma mère est presque désespérée dans le roman parce qu'elle pensait arriver, lui dire bon, bah, c'est des acouphènes et c'est réglé et on repart. Et en fait, elle nous embarque, quoi. Et on la laisse vraiment nous embarquer partout. Tu parlais de folie, bah, dans sa folie, en fait.
Mais vous la laissez parce que vous avez un amour immense pour elle. C'est la laisser faire et la suivre, c'est une immense preuve d'amour de votre part à tous les deux.
Oui, c'est une preuve d'amour et c'est un aveu d'humilité aussi de dire...
Il y a quelque chose qui nous dépasse.
Il y a quelque chose qui nous dépasse et même le bruit, on voudrait dire il n'existe pas. Et puis, en fait, on finit vite par se dire bah, si elle l'entend, elle, c'est qu'il existe d'une certaine manière. Et puis, c'est tout. Donc, on va la suivre et on va la laisser nous emmener où il faudra aller pour chercher ce bruit et le ramener quoi qu'il en coûte et le chasser.
Vous avez évoqué la nuit et le fait d'aller jusqu'au bout. La nuit est présente aussi. Il y a une part évidemment sombre dans votre roman. Abdel Attaya, on ne peut pas ne pas l'évoquer. C'est ce que vivent ces deux petits garçons, Najib et Youssef, ce qu'ils ont vécu dans l'enfance, c'est-à-dire le fait d'être un petit garçon efféminé dans un quartier d'une ville marocaine et de subir ce que les hommes du quartier leur font subir. Vous avez cette phrase que je trouve très belle et qui pourrait s'appliquer à vos deux romans, je crois. Écrire, c'est retourner sur les lieux où il s'est passé quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est sans arrêt y retourner. Et il y a quelque chose comme ça de l'incompréhensible, de l'indicible, c'est-à-dire que la société permet ça. C'est aussi un très grand livre sur l'hypocrisie de la société marocaine.
Je crois qu'à un moment donné, le personnage de Najib dit cette phrase « Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit. » Au bout de la nuit, il n'y a plus la nuit. Nous avons souffert assez dans ce monde et nous irons au paradis. C'est-à-dire que... comment on va dire ça ?
Je le lis pendant que vous cherchez.
J'ai beau parler d'une manière, on va dire, solaire de ce monde, mais il y a aussi tout le... Je ne comprends pas comment j'ai fait pour survivre déjà moi-même. Si ce n'est peut-être ce que j'ai raconté depuis tout à l'heure, cette lumière qu'ils ont placée en moi et ces voix à elles, tant qu'elles étaient encore totalement libres et qui a été presque comme la vie mode d'emploi, si je peux dire, mais la vie mode d'emploi gay dans un monde qui continue de violer les enfants, violer l'enfance, pas seulement dans la rue, mais aussi dans les maisons. Alors moi, je n'ai pas subi ça dans ma famille. Personne ne m'a fait du mal sexuellement parmi ces gens, mes sœurs ou bien mon grand frère, mais je connais plein de monde dans leur propre famille. Et d'ailleurs, même ici en France, cette chose que l'enfant appartient aux adultes. Il y a quelque chose de ça qui continue de circuler dans ce monde. Et à partir de là, des adultes se permettent de faire... Pas forcément du viol sexuel, hein. La violence passe aussi par d'autres chemins, hein, pour dire ça. Et je pense qu'on en est encore là, même ici en France. Hein. C'est comme un autre tabou qui est en train de monter, mais pas forcément des monstrueux qui finissent dans la prison, mais juste des gens avec qui on vit. Donc pour dire les sœurs, dans ce livre, Youssef qui revient pour confronter ses sœurs, qui se souvient de cette beauté dont je vous parle depuis tout à l'heure, on ne peut pas se souvenir de la beauté sans aussi évoquer en détail tout ce qui est sombre, ce garçon qui est devenu un objet sexuel pour tout ce monde et tout le monde regarde, ne fait rien et c'est raconté dans les détails, c'est très très,
cru et c'est très précis parce qu'il
très précis, c'est pas genre
c'est pas invisible. Non. Il y a des traces sur son corps, il y a du sang qui coule et vous allez jusqu'à ces
détails. Et c'est là où l'incompréhension pour les LGBTQ+ ne pourra pas passer. Qu'est-ce qui fait que ceux qui sont censés protéger ces enfants, parce que ces enfants sont LGBTQ+, on se détourne d'eux et on laisse le monde, la société, le pouvoir les tuer alors qu'ils ne sont que des enfants. Je ne peux pas comprendre ça. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé une personne qui un jour, non pas qu'elle m'explique tout ce qui se passe là, mais juste qu'elle me dise « je suis désolé ». Voilà.
De ce qui se passe.
De ce qui se passe et qu'elle comprenne que... ce gars que je suis aujourd'hui, qui vous fait rire et tout ça, il y a aussi autre chose, et qu'il s'excuse. Donc, même ces excuses-là, on finit par les rendre des tabous. Et que les gens, quand on grandit, tu dis, bah, tu as survécu, qu'est-ce que tu veux de plus ? Tu as dépassé tout ça. Tu te souviens encore de tout cela. Je pense qu'on est encore tous là dans le monde. Il y a quelque chose d'incroyablement terrifiant qui se passe dans l'enfant. Il y a un proverbe marocain qui dit, texto, quand le père emmène son enfant âgé de 5 ou 6 ans, ou bien sa petite fille, dans l'école maternelle, on n'a qu'à appeler ça l'école coranique dirigée par un imam, il lui dit texto, voici mon enfant, il dit ça à l'imam, voici mon enfant, toi tu le tues, moi je l'enterre. Ça dit tout. Alors, je sais que ça vous choque, mais il y a la même chose ici en France, d'une autre manière. Je suis désolé de vous le dire aussi frontalement. Et ce proverbe est devenu au Maroc une métaphore pour dire tout un tas de choses d'autres. Mais néanmoins, là, il y a un programme politique, si je peux dire, pour assassiner tout un tas de monde. Et alors, n'en parlons même pas quand l'homosexualité est visible sur eux. À la fois, ils vous renient et ils ont envie de vous tuer juste après. Donc, comment voulez-vous qu'un enfant comprennent tout cela, cette chose extrêmement compliquée politiquement, sociologiquement, intellectuellement, historiquement, comprennent ça, inventent un système pour se protéger de ça, et parallèlement à ça, ils se mettent à dire, ces gens-là, ils m'aiment malgré tout. Parce que où est-ce qu'il va aller cet enfant ? Il va aller à Paris pour trouver la liberté, il n'a que 6 ans ou 8 ans. C'est ça ce que vit aussi Youssef dans ce livre, il est totalement hanté par cela. Et c'est ça qui donne, je crois, à ce livre un côté totalement possédé et les voix qu'on écoute. Parce que c'est un livre totalement de voix. Il n'y a que les voix qui parlent et qui surgissent. On a l'impression qu'elles surgissent dans cet espace hanté où ils sont tous, ils l'ont hanté, où il a trouvé des solutions. Et quand il revient, ils ne veulent toujours pas le reconnaître. Mais lui se souvient de tout. Il est leur boîte noire au sens propre.
Il y a une chose qui le sauve aussi quand il est enfant, Youssef, et qui sauve Najib, c'est l'amour de la poésie, l'amour des textes. Je voudrais qu'on finisse là-dessus avant de donner la parole au public. Ils se retrouvent en forêt, ces deux enfants, avec tout ce qu'ils vivent de tragique et de dur, pour se lire, pour partager des poèmes d'Abou Firas al-Hamdani. Je voudrais vous entendre sur cette place de la poésie pour ces enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui a joué un rôle aussi pour vous, ou c'est une bouée, une solution, un peu de douceur que vous avez donné à vos personnages?
Pas seulement moi, l'amour de la poésie existe dans la culture arabe. Les Arabes, je pense que vous le savez, c'est d'abord des poètes. Le roman, comme genre littéraire, est arrivé avec les Occidentaux, quand ils ont colonisé le Maroc. Les Arabes, les poésies qui datent, je ne sais pas, peut-être que vous les connaissez, qui datent d'avant l'islam et qu'on accrochait à la Kaaba autour, vous voyez la pièce et Al-Kaaba, il y a un genre littéraire qui s'appelle Al-Mu'allaqat, les poèmes accrochés. Ces poèmes qui ont été écrits au 4e siècle, 5e siècle, avant l'islam, continuent de circuler aujourd'hui partout dans toutes les têtes. Tous ces poèmes commencent par cette chose. Le poète ou bien la poétesse qui est dans le désert de l'Arabie, qui cherche les traces de sa bien-aimée qui l'a quittée. À un moment donné, les traces n'existent plus. Ces traces, elles sont dans le vent qui a effacé les traces de ses bien-aimés qui la fuient. Donc lui, il cherche, il entre dans cette... C'est quelque chose qui, je pense, va te parler. Pourquoi il y a le bruit chez la grand-mère? C'est parce que tout ça est dans ce vent. Et les gens, les Arabes, les gens musulmans, juifs ou chrétiens, ils sont extrêmement sensibles à ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a dans le vent? Qu'est-ce qu'on entend, pas seulement de soi, de l'autre monde aussi, des autres siècles? Et tous ces poèmes, Al-Mu'allaqat, commencent par ça. Et à un moment donné, une fois qu'il a trouvé dans le vent l'invisible, la trace de la bien-aimée réelle, invisible, qu'il se met à pleurer, et là, il peut continuer le poème. Donc vous voyez, quand on connaît une telle beauté, quand on est dans cette horreur et cette beauté, on ne peut que trouver refuge, évidemment, dans la poésie. Et heureusement que pour moi et pour plein de gens au Maroc, que cette poésie était en langue arabe. Ce n'était pas comme si on ne citait des poètes anglais ou français qui n'ont rien à voir avec notre réalité pour nous dire « regardez la grandeur de ces poètes occidentaux ». Non, c'était avec des mots écrits au 4e, 5e siècle qui nous touchaient, enfin, qu'on n'avait même pas besoin de lire. C'est peut-être ça la beauté de la poésie. elle arrive jusqu'à nous. Ce qui a été écrit au 4e siècle, 5e siècle, est arrivé jusqu'à nous par le bruit et le vent.
Merci beaucoup, Abdelataya. On a quelques minutes peut-être pour prendre vos questions ou vos réactions. Un micro est à votre disposition. Il suffit de faire signe. Oui, il y a une dame qui veut prendre, je ne sais pas. Voilà, merci. Levez bien la main et le micro arrive jusqu'à vous.
Bonjour. Alors, j'ai lu vos deux livres qui sont deux très bons livres et j'espère vraiment que vous aurez tous les deux un prix.
Tous les deux le Goncourt. Voilà.
Merci. Non, c'est deux très bons livres. Et Ruben, alors vous, pour un premier roman, mais vous avez une écriture magnifique. Moi, il y a des phrases que j'ai lues deux, trois fois. Votre livre est plein de tendresse. Et quand je l'ai fini, j'ai éprouvé une grande paix. Je me sentais bien. Et voilà, je voulais vous le dire. J'espère que vous allez en écrire d'autres parce que vous avez une écriture magnifique.
Merci
voilà.
Beaucoup. Merci.
C'est un roman très enveloppant.
Savoir comment vos sœurs ont. Qu'est-ce que vos sœurs ont ressenti en lisant vos bouquins ?
Alors, tout à l'heure, j'ai dit que j'étais l'enfant numéro 8 dans la fratrie, donc je suis le moins important. Donc, je leur disais que je voulais devenir réalisateur et tout ça, donc c'est pas qu'elles se moquaient de moi, mais c'était pas pris au sérieux. Et moi, ça m'arrange qu'elles ne prennent pas ce que je fais au sérieux, c'est-à-dire qu'ils me laissent. Faire ce que, non pas ce que je veux, mais que le regard qu'elles peuvent jeter aujourd'hui sur ce que je fais, qu'il y ait encore dedans quelque chose qui n'est pas d'elles. Donc, je pense qu'elles ne lisent pas mes livres, mais ce n'est pas grave du tout. Il n'y a pas que les écrivains dans la vie. Hein. Il y a des infirmières, il y a des éboueurs, il y a des ouvrières, il y a des boulangers qui font autant de bien à l'humanité que les écrivains. Donc, ça m'arrange que parce que je suis publié, écrivain en français, etc., qu'elles me mettent sur un piédestal. Je ne veux pas de ça. Et en plus, elles ne le font pas, parce que je suis l'enfant numéro 8. Donc vous comprenez, dans la hiérarchie, voilà, quoi que je fasse, je ne pourrai jamais être l'enfant numéro 5. Oui, vive l'amour et vive la tendresse entre nous. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions ?
Il y a la dame là-bas.
Il y a une dame ?
Là-bas.
Ah oui, tout. Il faut que ça arrive. Levez bien le bras pour qu'on vous. Voilà, sur la droite, au niveau de l'arbre.
Bonjour. Ça tombe bien que vous soyez deux Marocains qui ont choisi de vivre ailleurs qu'au Maroc, puisque je crois Maghrib, c'est la même racine que l'exil. Mais aussi, pour vous, Abdelataya, vous disiez que vous n'aviez pas fait le rapprochement entre gay et gaieté. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un rapprochement à faire entre la racine de l'oubli, Nsa, Nsiti ? Et la mémoire, je crois qu'il y a la même racine que le sexe masculin en arabe.
La mémoire a la même racine que le sexe masculin en arabe.
En hébreu, mémoire. En tout cas. Et
le sexe masculin.
En tout cas, pour la femme, Nissa, Nsa, c'est à mettre en rapport.
Ah oui, bien sûr, Nissa. En arabe classique, c'est les femmes. Et Nsa, effectivement, c'est oublié. Il y a les deux choses.
D'accord. Et pour la mémoire, c'est, en hébreu, c'est Zahar, qui veut dire la mémoire. Et vous dites que Youssef, c'est la mémoire de la famille. Et moi, j'ai fait ce rapprochement.
Je pense, là où vous avez raison, en tout cas, ce que j'entends de ce que vous dites, c'est que l'oubli, à un moment donné, est à la fois programmé et presque nécessaire. Et qu'on ne peut pas écrire un livre sans être passé par cette phase-là, d'un certain oubli, même si ce n'est pas complètement total, cet oubli-là. Je constate en tout cas que ce sont, enfin, je ne veux pas fâcher les hétérosexuels.
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas, bah, tant mieux.
Il n'y en a pas, Manosque.
C'est-à-dire qu'avec tous mes copains gays marocains, je me rends compte qu'on va, eux, on va encore plus profondément de l'évocation de leur mémoire et des mémoires des hétérosexuels qu'ils portent en eux que quand je suis avec mes sœurs ou mes frères aujourd'hui. D'une certaine façon, l'hétérosexualité enferme encore davantage. L'homosexuel, il n'existe pas, et peut-être parce qu'il n'existe pas, il peut inventer sa liberté, quand il en a le courage et la possibilité.
Je vous propose de clôturer ce moment sur trois lignes, et on va se quitter sur « Au bout de la nuit ». Vous avez commencé à citer, et on va terminer là-dessus. « Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit ». Tu avais raison, Najib. Un jour, ta vision se réalisera. Il n'y aura pas la nuit pour nous et pour les gens comme nous. On sortira dehors et on vivra heureux dans le cri. Merci beaucoup, Abdelataya. Merci beaucoup, Ruben Barouk. Merci à vous.